Le quantitative easing, c'est une situation où la banque centrale achète des obligations et essentiellement des obligations, le plus souvent massivement des obligations et peut-être de temps en temps d'autres actifs financiers, et paye ces achats en créant de la monnaie. Et donc vous voyez que c'est une situation où la banque centrale va prendre des obligations qui étaient détenues auparavant par des épargnants, des investisseurs du secteur privé, hein, des ménages, des assureurs, des fonds de pension, les mettre dans son bilan et créditer les comptes de ces vendeurs d'obligations dans leur banque habituelle, hein, sous forme d'un crédit, des dépôts détenus par ces institutions dans une banque. Donc quand une banque centrale fait le quantitative easing, la banque centrale détient une quantité supplémentaire d'obligations et le reste des agents économiques, les épargnants, les investisseurs, détiennent moins d'obligations et détiennent davantage de monnaie. Alors, l'idée derrière le quantitative easing, c'est que cette opération a un effet favorable sur l'économie à un moment où les pratiques monétaires traditionnelles ne fonctionnent plus bien. Quand est-ce que les pratiques monétaires ne fonctionnent plus bien? Essentiellement quand les taux d'intérêt à court terme, qui sont choisis par les banques centrales, deviennent très bas ou même deviennent nuls. Si le taux d'intérêt de la banque centrale est nul, elle ne peut plus le baisser. Donc il faut qu'elle trouve un autre moyen de stimuler l'économie que de continuer à baisser les taux d'intérêt. Et cet autre moyen, c'est donc le quantitative easing, c'est-à-dire cette situation où la banque centrale, confrontée à ce plancher sur les taux d'intérêt, va se mettre à transformer les obligations en monnaie dans les portefeuilles, hein, dans les actifs financiers des différents agents économiques. Donc vous voyez que concrètement, après cette opération, les obligations qui étaient détenues avant par des banques, des assureurs, des fonds de pension, des ménages, sont maintenant détenues par la Banque centrale et que la Banque centrale a payé ses achats en donnant de la monnaie à ses vendeurs d'obligations. Donc un investisseur quelconque qui a vendu des obligations à la Banque centrale ne détient plus ses obligations et détient à la place de la monnaie. Alors pourquoi est-ce que cette opération peut avoir un effet positif sur l'économie? Il y a essentiellement deux canaux. Le premier canal, c'est le fait que comme la Banque centrale achète des obligations, ça fait baisser les taux d'intérêt à long terme. Il y a plus de demandes d'obligations, donc le besoin que les taux d'intérêt à long terme soient élevés est plus faible, et donc les taux d'intérêt à long terme baissent. Comme les taux d'intérêt à long terme baissent, ça génère des effets favorables normalement à l'activité économique. Le premier, c'est que les agents économiques qui sont endettés vont payer moins d'intérêts sur leurs dettes. Donc, ils auront plus de ressources pour consommer ou pour investir. C'est particulièrement vrai pour les États, hein, qui payent beaucoup moins d'intérêts depuis que les taux d'intérêt ont baissé avec ces opérations de quantitative easing, ce qui redonne des marges de manœuvre budgétaires aux États. Et puis le second effet, c'est un effet direct, hein, lorsque les taux d'intérêt à long terme sont plus bas, on s'attend à ce qu'il soit plus facile d'investir, plus facile d'acheter des logements. Et donc on a un supplément normalement d'investissement et d'achat d'immobilier par les ménages et par les entreprises. Donc ça c'est le premier effet, hein, qui résulte de ce que, vous voyez assez naturellement, hein, si la Banque centrale se met à acheter des obligations, elle va produire une hausse des prix des obligations, parce qu'il y a plus de demandes, et une hausse des prix des obligations, ça veut dire une baisse des taux d'intérêt à long terme, hein, sur ces obligations. Le second effet est un peu plus subtil. Il consiste à dire qu'un agent économique ne réagit pas de la même manière s'il détient de la monnaie ou s'il détient des obligations. Et s'il détient de la monnaie, il va être peut-être plus incité à dépenser, hein, que s'il détient des obligations qui ont un rendement plus élevé, qui sont un actif qu'on détient normalement avec un horizon de plus long terme. Et donc on pense que, par exemple, une banque qui vend des obligations à la banque centrale, donc récupère de la monnaie, va être davantage incité à faire du crédit, hein, pour utiliser cette ressource monétaire pour prêter davantage. Qu'un ménage qui reçoit de la monnaie va être davantage incité à consommer. Qu'une entreprise qui reçoit de la monnaie, qui a des réserves de trésorerie donc plus élevées, va être davantage incité à investir. Donc on a l'idée que détenir de la monnaie et détenir des obligations, ce n'est pas la même chose. Et que si vous détenez de la monnaie et plus des obligations, vous avez dépensé davantage. Vous avez votre compte en banque, pour parler simplement, est mieux alimenté et vous avez une tendance à dépenser plus. Voilà. Donc c'est sur ça que comptent les banques centrales quand elles font le quantitative easing, sur l'idée que comme elles ne peuvent plus utiliser l'instrument qui consiste à baisser les taux d'intérêt à court terme, il faut passer à cet instrument qui est l'achat d'obligations, et on en attend tous les effets positifs qui viennent de la baisse des taux d'intérêt à long terme, cette fois-ci, et éventuellement d'un comportement plus dépensier des agents économiques lorsqu'ils détiennent davantage de réserves monétaires. On a certainement un effet sur la solvabilité des emprunteurs. La baisse des taux d'intérêt à long terme, elle est évidente. Je veux dire, depuis que les banques centrales font du quantitative easing, les taux d'intérêt à long terme en France, par exemple, sont passés de 4-5% à peu près zéro. Et ceci a eu un effet massif sur le coût de la dette pour les ménages, pour les entreprises, pour l'État. Et la baisse du coût de la dette a permis qu'il y ait davantage de consommation, davantage d'investissement, davantage de dépenses publiques. Donc ceci a très bien fonctionné. Par contre, on n'a pas vraiment vu un effet très stimulant sur la dépense. Les taux d'épargne des ménages sont restés élevés, les investissements des entreprises ne sont pas nettement réagis à cette politique. Donc on a l'impression que cette politique de quantitative easing, elle ne joue pas tellement par l'effet de liquidité, c'est-à-dire que détenir davantage de liquidité n'a pas l'air de beaucoup changer les comportements économiques, mais qu'elle joue simplement par le fait que la dette est moins chère et que si on paye moins de services sur sa dette, on a davantage de revenus, davantage de ressources pour dépenser davantage par ailleurs. Et ceci est vrai à la fois pour le secteur privé et pour l'État. Donc la conclusion de tout ça, c'est que le quantitative easing, ça a évidemment ouvert un nouvel horizon aux banques centrales qui leur permet de continuer à essayer de pousser l'économie, même quand elles ont amené à un niveau extrêmement faible les taux d'intérêt à court terme, et que ça joue surtout par la baisse du coût de la dette. Et la baisse du coût de la dette permet à des agents économiques, qu'ils soient publics ou privés, très endettés, de ne pas payer un coût important sur cette dette et donc de conserver leurs revenus pour dépenser par ailleurs. Ça n'a pas tellement joué par un effet de stimulation de la demande, ça a joué énormément, positivement, par un effet d'allègement du coût de la dette. Clairement, cette politique, c'est une politique de création monétaire. La Banque centrale achète des obligations et crée de la monnaie pour payer. Et donc, on se demande ce qui se passe quand une banque centrale se met à créer beaucoup de monnaie. Il y a 50 ans, la réponse était assez simple, il y avait de l'inflation. Puisque la monnaie stimulait la demande des ménages, la demande de consommation, et ça faisait monter les prix de la consommation. On n'a plus ça du tout aujourd'hui, à nouveau parce qu'on voit que ce supplément de monnaie créé ne conduit pas vraiment à un supplément de consommation. Par contre, ce supplément de monnaie créée, il s'est en partie réinvesti dans d'autres actifs. Ça peut être des actifs financiers comme les actions, ça peut être des actifs immobiliers, des logements. Et donc on a un comportement qui n'a pas été, on l'a dit avant, un comportement de supplément de consommation lié à la création monétaire, mais un comportement de supplément d'investissement dans des actifs, donc de supplément de placement. Et le résultat, c'est une hausse importante des prix de ces actifs. Donc la Banque centrale crée de la monnaie, une partie de cette monnaie sert à acheter des logements, donc les prix des logements augmentent. Donc le coût de cette politique, ce n'est plus, comme il y a longtemps, l'inflation liée à la création monétaire, c'est l'inflation des prix des actifs liée à la création monétaire. C'est-à-dire c'est la hausse de la valeur des entreprises, des cours boursiers, des prix de l'immobilier. Et c'est pour ça que le débat aujourd'hui s'est déplacé sur le terrain où on dit, attention, cette politique, on l'a dit avant, a été très efficace pour améliorer la situation de tous les agents économiques qui avaient de la dette, puisque cette dette devient moins chère, ils payent moins d'intérêt sur cette dette, mais elle a augmenté les inégalités de patrimoine, puisqu'elle a fait monter les cours boursiers, la valeur des entreprises, les prix de l'immobilier. Donc les détenteurs de patrimoine se sont enrichis et ça a créé un gros écart patrimonial entre ceux qui détiennent des patrimoines et ceux qui n'en détiennent pas, ou même ceux qui doivent en acheter. Par exemple, les acheteurs de logements payent plus cher les logements qu'ils doivent acheter. Et donc c'est la critique essentielle à cette politique, c'est son effet sur les inégalités patrimoniales. Donc voilà, et c'est dans ces termes qu'il faut raisonner aujourd'hui. On a besoin de cette politique parce qu'on a beaucoup de dettes dans l'économie et il faut alléger le coût de cette dette. Donc de ce point de vue, cette politique est efficace. Mais d'un autre côté, on sait que cette politique crée des hausses des prix d'actifs, donc l'ouverture des inégalités patrimoniales. Et ceci, évidemment, est quelque chose qui est mal ressenti et qui pose des problèmes économiques, sociaux, moraux, d'enrichissement, qui est absolument pas fondé sur l'effort ou sur l'innovation, qui est simplement lié à l'investissement dans certains actifs de ce supplément de monnaie qui est créé par les banques centrales. Alors on peut rajouter effectivement un point qui est un point redistributif, qui est dire vous baissez les taux d'intérêt. Et quand vous baissez les taux d'intérêt, vous savez que les gagnants, ce sont ceux qui sont endettés, donc les ménages endettés, les entreprises, les États. Et c'est évidemment l'objet de cette politique, c'est d'alléger le coût de la dette pour les agents économiques endettés. Et que les perdants, ce sont les épargnants. Et les épargnants, soit ce sont les détenteurs d'obligations, les détenteurs de dettes. Dans les économies contemporaines, les ménages détiennent assez peu directement de dettes. Ce sont les intermédiaires financiers qui détiennent de la dette. Donc ce sont les banques. Donc le rendement du crédit pour les banques est devenu plus faible. Donc évidemment, une banque aujourd'hui a une ressource qui est essentiellement des dépôts qui coûtent zéro et a une utilisation de ces ressources qui sont du crédit. Le taux d'intérêt sur les crédits a baissé, ça a évidemment fait baisser la rentabilité des banques. Et puis les assureurs-vie, par exemple en Europe, détiennent énormément d'obligations, c'est l'essentiel de leur placement. Et ces obligations ont un rendement qui est de plus en plus faible. Et donc on a un rendement extrêmement faible des produits d'assurance-vie. Probablement cette année, ce qu'on appelle le fonds en euros, qui est le produit phare de l'assurance-vie en Europe, aura un rendement pour les épargnants qui va tomber en dessous de 20%. Donc il faut bien comprendre que maintenir des taux d'intérêt bas et beaucoup plus bas que les taux de croissance de l'économie. Dans un pays comme la France, on a des taux d'intérêt de l'ordre de 0,2% aujourd'hui. La croissance à long terme, nominale, c'est à peu près 3%. C'est une taxation des épargnants. Mais évidemment, quand on fait cette politique, on l'assume. L'essence de la politique de quantitative easing, c'est de mettre en place, par la baisse des taux d'intérêt, une taxation des épargnants qui se fait au profit des emprunteurs, au profit de ceux qui ont de la dette. Et donc le postulat qui est fait, c'est qu'on crée de la dynamique économique en taxant les épargnants et en donnant le bénéfice de cette taxe à ceux qui s'endettent, parce que normalement ils s'endettent pour investir. Donc c'est fondamentalement cette politique est une politique de taxation des épargnants, alors soit en direct, soit à nouveau plutôt par la baisse du rendement des placements des intermédiaires financiers, c'est-à-dire des banques et des assureurs.